Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, est l'invité de France Inter. Nos questions à Léa Salamé et moi-même dans quelques instants, après les vôtres, amis auditeurs. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Bienvenue. Bonjour. On vous écoute.
À mon avis, il y a bien eu manquement de l'État, mais pas seulement sur le dernier mois, sur les 10 dernières années. J'ai travaillé pendant 40 ans dans une entreprise alimentaire, une grande entreprise alimentaire, et au fil des années, on a vu les contrôles de l'État diminuer tout doucement, gentiment. Auparavant, dans les débuts, quand j'y étais, on voyait la DSV, la répression des fraudes, qui à l'époque était deux entités séparées, qui arrivait à la porte de l'entreprise et qui venait contrôler sans prévenir. Et puis au fil du temps, ça s'est espacé pour arriver à la fin, faites vos autocontrôles et puis envoyez-nous les résultats. Pour moi, il y a bien eu un manquement de l'État. Mais aussi sur le dernier mois quand même, parce que quand M. le maire nous dit qu'il a diligenté 2500 contrôles entre décembre et janvier et qu'il a trouvé 91 cas de fautifs, pourquoi ne l'a-t-il pas dit à ce moment-là? Pourquoi attend-il le 10 janvier pour le dire et non pas au moment où c'est arrivé?
Merci Gérard pour cette question qui concerne encore Lactalis. Philippe Martinez vous répond.
Oui, j'ai eu l'occasion de le dire, il y a besoin, premièrement, de laisser les salariés faire leur travail et en même temps renforcer les contrôles. Et c'est une mission de service public plutôt que de stigmatiser les fonctionnaires comme on le fait, comme le fait régulièrement le gouvernement et un certain nombre d'autres. Et ben, il faut renforcer des équipes de contrôle, des contrôles inopinés. Évidemment, c'est indispensable.
Brigitte, par courrier électronique et via l'application de France Inter pour l'autre question, vous dit la chose suivante: dire que les salariés sont empêchés d'appliquer les procédures, les procédures d'hygiène. Hein. Monsieur Martinez n'exagère-t-il pas? Sylvain, donc, sur l'application de France Inter, sans aucune preuve, Monsieur Martinez affirme qu'il s'agit d'une restriction de coûts. Contestation, donc, de votre analyse peut-être perçue comme simpliste ou pas assez fondée, factuellement?
Je m'appuie sur mon expérience aux côtés d'un certain nombre de salariés dans mon entreprise, où régulièrement, les salariés témoignent que leur savoir-faire et leurs compétences leur disent de faire comme ça, et on leur dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est autrement. C'est tout. Je ne vois pas pourquoi, chez Lactalis, ça ne se passerait pas comme ça. Et je vous dis, j'ai entendu d'anciens salariés dire à peu près la même chose. Point.
On retourne au standard. Bonjour Denis.
Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Martinez.
Bonjour.
Bonjour M. Demaron.
Bonjour.
Je vous remercie d'inviter enfin un représentant des salariés. Voilà. Donc j'ai ma posé la question sur le sujet sensible de la chasse aux chômeurs, entre guillemets fraudeurs. Tout simplement parce qu'en l'état, Pôle emploi est incapable de proposer à chacun de ses 3,5 millions d'inscrits une offre d'emploi dite entre guillemets raisonnable, distante, à savoir distante de 30 km au maximum, et rémunérée à 95% du salaire antérieur pour un chômage de moins d'un an. Parce que ces offres ne comportent pas toutes ces données. Alors comment Pôle emploi va pouvoir-t-il justement proposer à ces chercheurs d'emploi une offre entre guillemets raisonnable, sachant d'ailleurs que Pôle emploi va supprimer 297 postes.
Merci Denis pour cette question. Philippe Martinez.
Oui, il y a plusieurs questions. La première chose, c'est on stigmatise ceux qu'on appelle les fraudeurs alors qu'ils ne représentent rien. C'est moins de 13% de radiés, et dans ces 13%, tout le monde ne touche pas le chômage. Je crois que on doit, pour reprendre le qualificatif fraudeur, avoisiner...
C'est une question d'éthique, dit Muriel Pénicaud.
On doit avoisiner les 1%. Et de 1% de personnes, on en fait une généralité. La deuxième chose, c'est plutôt de renforcer ceux qui vont aller contrôler les chômeurs, alors que effectivement, les effectifs de Pôle emploi diminuent. On ferait mieux de renforcer les effectifs de Pôle emploi, car Pôle emploi, c'est fait pour trouver du boulot à ceux qui n'en ont pas. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, là, on est en pleine négociation. Et là aussi, on peut discuter qu'est-ce que c'est qu'une offre d'emploi raisonnable. Moi, j'aimerais bien qu'on reparle et que M. Macron reparle des GMS quelques semaines plus tard pour savoir où ils en sont, ceux dont l'emploi a été supprimé. et où ils en sont. Est-ce que une offre d'emploi raisonnable, c'est d'habiter la souterraine et d'aller travailler à Ussel? Parlons de ça. Parlons de la mise en œuvre des compétences. Comment on a une vraie politique d'offre d'emploi correspondant aux compétences?
Léa Salamé.
Philippe Martinez, quand vous avez lu la semaine dernière la tribune des 100 femmes dans Le Monde qui réclament le droit d'importuner, qui dénoncent le retour du puritanisme et une haine des hommes, est-ce que vous êtes tombé de votre chaise?
Non, pas tombé de ma chaise, mais je crois qu'il y a besoin de rappeler que c'est une bataille de toutes et de tous contre les violences faites aux femmes. Et pour ce qui est de notre domaine...
Qu'est-ce qu'elle fait la CGT pour lutter contre le sexisme en entreprise?
Je vais vous expliquer tout de suite. Nous avons fait 4 propositions majeures à la ministre du Travail. Premièrement, la prévention. La prévention, ça veut dire qu'il faut des négociations annuelles sur cette question dans les entreprises. Deuxièmement...
Je comprends pas, pardon. Vous voulez des négociations sur le sexisme en entreprise?
Oui.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire...
Pas négocier sur quoi?
Ça veut dire discuter de cette question en même temps que les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Or, vous savez que dans les ordonnances, cette question a été évacuée. Donc ça, c'est la première chose. Former les salariés, c'est-à-dire des campagnes de prévention et d'information. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement? Qu'est-ce que c'est que la violence? Et condamner les employeurs qui ne feraient pas ces campagnes.
Troisième chose,
accorder un statut de victime aux femmes victimes de harcèlement. Un statut, par exemple, les reconnaître en accident du travail quand elles sont victimes de ces violences. Et je vous le fais rapidement. Et quatrièmement, avoir au sein des institutions représentatives du personnel, notamment les CHSCT que le gouvernement veut supprimer, des salariés, des élus formés à ces questions. Il y a des associations qui font des très bonnes formations pour déceler ces cas et qui permettent de, non pas se porter en tribunal, mais d'aborder ces questions. Et la CGT, d'ailleurs, depuis un an, a mis en place en interne une cellule de veille concernant les violences faites aux militantes et aux syndiqués CGT en interne. Nous avons formé 8 de nos camarades et ils sont là pour aider à régler ces problèmes car c'est inacceptable.
Balance ton port, ça vous a choqué, ça allait trop loin.
Je pense que il y a besoin de libérer la parole, mais je vous l'ai dit, attention que ça ne soit pas la lutte des femmes contre les hommes. Il y a besoin d'une lutte de toutes et de tous pour être efficace contre ces harcèlements et ces violences faites aux femmes.
Tout est parti des États-Unis et du monde du cinéma, du monde de l'art, puis du monde des médias. La CGT est très puissante dans ces mondes-là, la Fédération CGT du spectacle est très puissante. Est-ce que des choses vous remontent? Êtes-vous alerté sur ce qui se passe ou ne se passe pas dans les différents mondes de la culture en France?
Nous avons, je vous l'ai dit, nous avons fait des efforts pour que ça ne se passe pas en interne, parce que c'est important d'être exemplaire à la CGT. Dans notre syndicat. Mais oui, il y a des choses qui nous remontent dans le spectacle, mais au-delà. Malheureusement, c'est pas réservé au spectacle, dans le monde du travail en général. Et nous sommes très attentif à ces questions-là. Nous avons rendu hommage, il y a peu de temps, à une militante fonctionnaire qui est morte sous les coups de son mari. Donc, vous voyez, c'est une question très, très, très importante pour notre organisation et ça demande de la mobilisation de tous. Et vraiment, c'est un combat qui ne doit pas se limiter à une actualité parce que bien souvent, il y a des choses qui font le buzz et puis, quelques semaines après, chasser le naturel, il revient au galop.
Quand vous avez des informations qui vous remontent, vous en faites quoi exactement?
On n'est pas un tribunal.
Mais précisément, c'est ça ma question.
Mais déjà, on écoute.
Vous faites quoi de l'information?
La première chose, c'est qu'on écoute les victimes. C'est important de les écouter et de pas de considérer qu'elles ne sont pas crédibles. Et ensuite, si c'est grave, on demande des sanctions à ceux qui les ont, qui ont procédé à ces violences en externe et en interne.
Retour au standard, Monique, bonjour.
Bonjour à tous.
Bienvenue.
Merci. Je voulais poser, en aparté, je suis la présidente d'une association qui s'était montée en 2008 contre la suppression de l'allocation équivalent retraite. Donc je voulais attirer l'attention de M. Martinez et des autres syndicats contre les ruptures conventionnelles. Déjà, à titre individuel, quand ça a été instauré, ça m'a un peu choquée. Donc, on est en train d'habiller avec des termes assez pompeux, ce qui était avant d'autres termes comme la sauvegarde de l'emploi, patati patata. Mmh. Et du coup, moi, j'ai fait partie, maintenant je suis retraitée, j'ai fait partie du groupe PSA. J'ai été, à un moment donné, militante syndicale, justement, à cette époque. Et j'ai vu que comment on éliminait, entre guillemets, les seniors. Parce que c'est ce qui va se passer chez PSA, à mon avis. C'est qu'on va faire, on présente les plans à, individuellement à chaque salarié, sont un habillage très, très intéressant.
Et en fait, ce sont toujours les mêmes qui payent le plus cher, les seniors. Ce qui est vieux et cher, disiez-vous tout à l'heure pour une entreprise, Philippe Martinez. Merci Monique pour cette question. Muriel Pénicaud, à laquelle on a posé la question de plan ciblé pour sortir les seniors d'une entreprise, a dit absolument pas, ce sera regardé de très très près, il n'en est pas question.
Mais qu'elle regarde chez PSA déjà, parce que c'est l'actualité, parce qu'en plus des ruptures conventionnelles collectives. Il y a aussi 900 départs dans le cadre d'un plan de rajeunissement, mais on dégage beaucoup de monde et on n'en embauche pas beaucoup. On ne connaît pas encore le statut. Donc je pense que Monique a raison. On change de nom, parce que mais le contenu reste. On parle beaucoup de démissions en ce moment. Il y a les démissions volontaires et puis les démissions forcées, comme on l'a connu pour les ruptures conventionnelles.
On va encore parler de démissions, puisqu'on apprend à l'instant, le secrétaire général de FO Pénitentiaire annonce le départ du directeur de la prison de Vendin-le-Vieil. Il y a tout un mouvement de mobilisation aujourd'hui des surveillants pénitentiaires qui en ont marre. Après l'agression d'entre eux la semaine dernière, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement d'un mot ?
Il y a besoin de deux choses pour être le plus bref possible. Plus d'effectifs.
Moi, j'ai eu l'occasion. Combien ?
J'ai pas le chiffre exact, mais j'ai visité la prison des Baumettes. C'est vraiment peu d'effectifs. Et deuxièmement, une autre politique pénale et une autre politique judiciaire. Il y a trop de monde. Trop de citoyens qui sont emprisonnés pour des faits qu'ils ne le méritent pas. Trop de gens qui sont en prison. Je pense à des problèmes de maladies psychiatriques qui sont en prison et qui devraient être ailleurs qu'en prison.
Restez avec nous, Philippe Martinez.